Bienvenue au Point Sécur, épisode sur l'actualité, semaine terminant le 19 juillet 2026, enregistré le 19 juillet 2026. Petit préambule, j'ai commencé à diffuser sur mon blog la veille que je fais en intelligence artificielle, considérant que bon, certains problèmes que j'ai rencontrés dans la diffusion d'informations. Fait que tant qu'à le faire, je vais le diffuser à grand public. Fait que si vous voulez voir ce que j'attrape dans mes filets d'intelligence artificielle, vous pouvez aller consulter mon blog. Bref, petite chose, j'ai plusieurs sujets sur lesquels je risque de charler beaucoup cette semaine. Donc, attachez votre sujet. J'espère que je vais rester autour de 30 minutes comme j'ai réussi à faire dernièrement. Mais on va voir ce que ça va donner. Bref, j'aime les blogs 19 septembre, B-Side Montréal, 20-26 septembre, RoCon, 13-14 novembre, le DEFCON, 16 au 19 novembre, l'European Cyber Week, le 1er au 3 décembre, Foreign Cyber Canada, et 24-25 février, le Secure 2027. Commençons avec une nouvelle en intelligence artificielle, premier bloc sur les MCP. Trois papiers intéressants, deux recherches, plus une analyse de ce qui se passe sur le terrain à l'heure actuelle. Essentiellement, c'est des analyses, soit c'est des approches mécanisées pour réussir à analyser les différents MCP qui sont disponibles, donc papier de recherche en ce sens-là, qui donne une démarche structurée pour y arriver. À ça, il y a un papier de recherche effectif qui donne l'état de la nation à laquelle c'est pas super reluisant. Les MCP disponibles sur Internet sont majoritairement vulnérables, donc c'est un problème assez important. Je pense que je ferai plus du clou largement. Je pense qu'on n'a pas encore. Je pense que la très grande nouveauté, puis en plus ce que je mentionnais dans l'introduction du dernier podcast, sur le fait que les gens n'ont pas été sensibilisés, déploient ça massivement. Donc, surtout dans ce contexte-là, les gens qui pensent à savoir, finalement, on n'a pas la connaissance nécessaire pour le faire de façon effective. Puis j'aurais utilisé un terme que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, les gens n'ont pas été socialisés à cette information-là. Donc, bref, n'ont pas été préparés à configurer correctement par rapport à ce genre de choses-là. Et dernier élément de ce bloc-là du MCP, c'est le SAS Institute a remarqué qu'il y a des balayages très persistants ces temps-ci avec l'objectif d'aller chercher vos identités, de voler votre contenu de votre MCP. Fait qu'essentiellement, on est un peu dans cette phase-là de vol d'informations, mais il manque de maturité énorme, autant dans le protocole que par le déploiement qui en est fait réellement. Pentest par l'intelligence artificielle, il y a deux éléments importants par rapport à ça. Hugging Face revient sur mentionne qu'ils ont été attaqués de façon automatique par du AI. C'est drôle, un dépôt AI qui se fait attaquer par du AI. Et bien, bref, c'est ironie. Et l'autre, c'est repenser les pentests pour le AI essentiellement. Donc, de repenser que ce n'est pas le but d'accéder à de l'information, mais d'accéder un peu plus au comportement essentiellement de l'outil qui nous permet d'utiliser. Donc, c'est un peu une approche différente par rapport à ce que les pentests doivent faire essentiellement en intelligence artificielle. Vibe, tout ce qui est vibe coding et les problèmes inhérents. Donc, il y a deux nouvelles dans cette section-là. La première, c'est comme c'est des modèles très fragiles, le setup de ces choses-là ou la façon que ces agents-là se mettent en configuration est facilement manipulable et donc peut mener jusqu'à la compromission des machines des développeurs. On l'a vu dans certains cas à l'heure actuelle, donc ce n'est pas de la folie. Là, c'est un papier de recherche plus formel qui regarde comment le faire, mais si la recherche s'y intéresse, c'est-à-dire qu'il y a des vecteurs très, très importants de ce côté-là. Et le second, c'est la dette technologique qu'on est en train de créer. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne. Là, il y a un papier qui en parle de façon un peu plus marquée. Fait que ça revient dans les médias un peu plus généralistes. Donc, c'est très important. Puis, c'est un signe que c'est d'autant plus important d'en tenir compte et de faire très attention par rapport à ce type de choses-là. Autre sous-section, c'est l'injection. Pour le bien et pour le mal, trois éléments d'injection qui sont rapportés, notamment le fait que l'usage de petits éléments de déviation dans les courriels permet de contourner les filtres anti-spam. C'est pas nouveau. C'est étonnant que ça revienne encore. C'est étonnant que ces éléments-là soient encore présents. J'ai l'impression qu'on fait trop confiance à l'intelligence artificielle pour être capable de régler tous les problèmes. Dans quel cas, il est capable de facilement être dupé par ces stratégies-là. Donc, c'est une combinaison encore. Voir. Là, je mets pas en cause les filtres commerciaux qu'on a à ce stade-ci. J'ai l'impression qu'ils sont tous de très grande qualité. Mais qu'on voit ces changements-là nous amènent à réfléchir notre approche par rapport à ça. Dans le même esprit, c'est un papier qui est parti sur Simon Wilson. Et étant donné qu'on est capable de tromper les agents qui vont aller consulter des sites web, donc de réussir à trouver une stratégie pour réussir à faire consulter un site qui est nocif, même s'il y a des limitations qui sont faites, donc dans ce cas-ci, c'est avec Claude que ça a été démontré. Il n'est pas exclu que les autres soient également affectés par ça. Et le dernier, c'est comment le propre injection peut servir pour le bien, c'est-à-dire comment on peut protéger nos infrastructures du propre injection, c'est-à-dire que si on se fait attaquer par un agent AI, un peu comme le Hugging Face a subi, d'introduire des marqueurs qui vont être interprétés pour le arrêter, parce qu'ils vont interpréter le message et donc va se fermer par lui-même. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut utiliser les mêmes stratégies des deux côtés pour arriver à des résultats qui sont bons ou des résultats qui sont mauvais. Donc dans les faits, c'est l'outil qui qualifie où on s'en va. Autre petite section, parce que finalement, il y aurait juste une nouvelle de ce grand enveloppe de recherche. Ça l'a beaucoup populé, mes nouvelles dans les dernières semaines, les papiers de recherche. J'ai constaté la semaine dernière que j'ai un peu cafouillé sur le fait de relater les informations, donc j'ai comme compacté ça. Et soit j'en fais une section séparée comme ce que j'ai fait là, ou je réduis davantage la quantité de nouvelles que j'ai ça. Donc essentiellement, c'est ça que ça a eu l'effet cette semaine. J'ai réduit énormément le nombre de papiers de recherche que je vais inclure dans la face active du podcast. L'autre, c'est dans les ce que je mentionnais en entrée de jeu. Sur le blog, ben, les autres papiers de recherche vont être disponibles, donc je ne traiterai pas sur le podcast lui-même. Mais bref, la seule que cette semaine, c'est l'usage des stratégies de détection de la fraude pour utiliser pour protéger les agents. Donc, essentiellement, s'inspirer de la façon qu'on détecte une fraude, donc la manœuvre qui est faite, et parce que c'est essentiellement le même chemin qui est utilisé pour tromper les agents et les amener à faire des gestes qui ne sont pas autorisés. Donc, de voir la trajectoire qui est utilisée nous permet justement d'intercepter et d'agir sur les tentatives de manipulation des agents et les amener à faire des choses qu'ils ne veulent pas. C'est très intéressant, ce papier de recherche là-dessus qui nous permet d'éclaircir ça un peu davantage. Bref, fin des sous-sections. XAI va finir par poursuivre les utilisateurs qui produisent de la pornographie juvénile. On est rendu à l'état des faits où c'est reconnu maintenant que c'est qu'ils en font. Donc, au lieu de s'attaquer au problème lui-même, ils vont décider d'attaquer les utilisateurs qui le font. Par ailleurs, l'article relate beaucoup de choses et beaucoup de difficultés que XAI ou Grok essentiellement va réussir à gagner son chemin étant donné que les choses qui sont produites par les AI ne sont pas reconnues comme étant une valeur légale au sens, ou du moins américain, dans ce cas-ci. Et donc, la propriété de ces informations-là n'est pas sur l'utilisateur. Donc, c'est voir qui est vraiment responsable dans cette stratégie-là. Et la quantité de poursuites et recours collectifs qui est faite contre Grok XAI va amener à devoir changer un peu ce qui se passe avec tout ça. Donc, bref, ça t'amène à réflexion. C'est une stratégie pour se sauver sa peau, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas, puis ça serait bien que ça ne fonctionne pas. Il faudrait que ces gens-là qui donnent les outils qui permettent d'effectuer des gestes illégaux à ce point-là soient punis à la hauteur de ce que c'est, ou en tout cas, du moins, à suffisamment peur pour mettre des mesures en place pour limiter ou arrêter ce genre d'usage de ces outils-là. Article sur l'encadrement de l'agent antique. Essentiellement, c'est pas la première fois que je reviens que ce problème-là. Il commence à y avoir des articles un peu plus généralistes qui en parlent. C'est-à-dire que les agents AI, à l'heure actuelle, ont trop de pouvoir et comment les encadrer. Donc, le vrai problème de gouvernance associé à l'usage, surtout en entreprise, d'agents autonomes comme tout ce qui est dans la famille des agents antiques, doit être réfléchi de façon à ce qu'on puisse contrôler, limiter, scoper correctement les éléments. Il y a des choses dans les semaines précédentes que j'ai abordées qui commencent à mettre en œuvre certaines stratégies, mais c'est encore très faible. Moi-même, j'ai commencé à jouer un peu avec ça parce que c'est des choses que je connais de point de vue théorique à l'heure actuelle, que j'ai commencé à tester de façon non théorique et voir à quel point on peut développer. D'ailleurs, c'est sans rappeler le podcast que j'ai avec Simon Allais sur le fait qu'on va l'aborder, son usage, et j'anticipe pour en faire une suite cet épisode-là, une fois qu'il va être diffusé, pour aller un peu plus loin de ce qui était abordé. Mais bref, après ça, FirstCon, il y a le framework circuit qui a été diffusé. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le framework lui-même, autre que juste l'article qui en parle, mais c'est essentiellement donner une visibilité sur les modèles AI, donc nous aider l'encadrement et permettre justement d'avoir une plus grande visibilité gouvernance à ce stade-là. Fait que c'est très intéressant d'avoir ça, puis ça va probablement aider, mais à ce stade-ci, j'ai pas vu le contenu, donc je suis très content de voir l'article puis là, de toute façon, allez voir le blog au complet. Lui, il apporte justement toutes les nouvelles responsabilités qui arrivent au CISO, les stratégies, comment on le voit et comment c'est coté. Bref, on va avoir un outil très intéressant que j'ai très hâte de voir et pour mettre en pratique effectivement dans mon quotidien plus régulier au niveau de ce que je peux ajouter. Microsoft a patché 570 vulnérabilités ce mois-ci. Ce chiffre-là est impressionnant. C'est le double du plus grand précédent nombre de vulnérabilités couvertes. C'est le AI qui l'a trouvé. C'est un signe que de plus en plus, le bénéfice qu'on en tire est quand même assez grand. La vitesse à laquelle ça sort va mettre beaucoup de pression sur le fait qu'on va devoir appliquer ça dans l'entreprise. J'en parlais dans les semaines précédentes. Les conséquences que ça va avoir. Donc, on va falloir changer notre approche et nos pratiques de correctif pour faire état de cet élément-là et le fait que Microsoft a emboîté le pas. Et il va probablement sortir d'autres de ce volume-là dans les prochains mois aussi. Donc, on va devoir patcher beaucoup, beaucoup de choses dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on a beaucoup de réflexions de ce côté-là. Dernière nouvelle de section d'intelligence artificielle. Google a corrigé un problème avec Android sur le fait qu'avec un swipe d'écran, on était capable de faire ou d'utiliser Gemini pour envoyer des SMS puis des messages en WhatsApp. Et c'est un signe, pas que je chaimais nécessairement Google en l'occurrence ou Android, mais c'est de montrer à quel point c'est complexe l'intégration des modules d'intelligence artificielle et il y a beaucoup de choses qui peuvent être mal tournées ou qu'on a de la difficulté à prévoir. Il est arrivé des éléments similaires avec Outlook et Copilot du côté de Microsoft, donc c'est pas exclusif. C'est très complexe. Je pense que les gens ne mesurent pas le degré de complexité qui est associé au déploiement de ces technologies-là et les effets inattendus qu'on peut avoir. Ça, c'est un autre exemple qu'on en a. On en a plein d'autres. Et c'est ce qui est très difficile à communiquer à toutes les gens qui sont excessivement enthousiastes à déployer l'intelligence artificielle, à quel point il y a des ramifications qui sont très difficiles à percevoir. Et en l'occurrence, Google a quand même des gens très spécialisés et très connaissants en intelligence artificielle. Fait que même eux n'ont pas vu les problèmes qui peuvent avoir lieu. Donc, bref, ça l'amène ce degré de complexité-là qui, je crois, même les experts du domaine ont de la misère à maîtriser. Bref, autre section sur la guerre. Juste une nouvelle, c'est une publication sur Mastodon de Adam Shustak qui essentiellement fait un lien entre le fait que les Américains ont bombardé les usines de production d'eau, de purification d'eau en Iran. Et le point, puis ça fait plusieurs fois que je le mentionne, le problème avec ce que les Américains font à l'heure actuelle, c'est que comme ils brisent eux-mêmes les règles dans lesquelles on vit, le Gentleman Agreement ou les différentes conventions qu'on a, ensuite, c'est de plus en plus difficile pour eux de justifier et d'être outrés quand la même chose se passe sur leur terrain. Fait que c'est un jeu très, très dangereux de faire des gestes comme ça à l'étranger et ne pas penser que ça pourrait nous arriver sur notre terrain. So far, c'est bien, on touche du bois, il n'y a rien qui s'est passé, mais la montée de la rhétorique en Iran contre le président américain et sa famille notamment, et probablement contre les Américains au sens large, est en train d'escalader de façon très, très importante, et il ne serait pas surprenant qu'il y ait des tentatives de terrorisme en sol américain. Donc, c'est très inquiétant sur la sécurité des Américains eux-mêmes et toute cette escalade-là va mener à des choses qui sont très, très malheureuses et qui ne seront pas intéressantes. Donc, ces règles-là, puis on le voit dans d'autres domaines aussi, c'est important de respecter les règles du jeu en relation internationale, justement pour pas qu'on aille chez nous ce qu'on fait chez notre voisin ou chez un pays adverse en l'occurrence. Donc c'est très très inquiétant cette escalade-là. Bref, souveraineté numérique, deux petites nouvelles. La première, celle de Microsoft, je l'avais déjà abordé sur le podcast ou je l'ai abordé dans d'autres circonstances, le fait que des employés chinois de Microsoft offraient du service à l'armée américaine crée un certain problème. À l'heure actuelle, il y a eu d'autres manœuvres qui permettent à des employés chinois ou à des sous-contractants chinois de faire affaire avec l'armée américaine, en quelque sorte, à travers Microsoft, que pour avoir une escorte digitale ou une escorte numérique, qui fait qu'essentiellement, on a un prête-nom américain qui est utilisé pour que l'ingénieur chinois envoie le contenu et littéralement copie. C'est pas sans rappeler les fermes de laptop qu'on a ici, dans ce cas-ci, plus par la Corée du Nord. dans lesquels sont utilisés. Donc, on utilise un prête-nom américain pour faire installer l'ordinateur, le laptop en question, et qui est pris à distance par des Nord-Coréens. Donc, on est dans cette situation-là qui est un peu particulière, disons, et c'est pas rempli de soft, mais en même temps, c'est de voir à quel point les grandes compagnies, notamment comme Microsoft en ce cas-ci, des fois vont tordre certaines règles, puis c'est pas... En ce cas-ci, c'est pas Microsoft qui est pointé, mais que les grandes corporations vont avoir tendance à faire ça naturellement, peu importe la grande corporation en question. Donc, dans ce cas-ci, Microsoft a été pris la main dans le sac, mais il y en a plein d'autres qui vont tourner parce que cette forme de non-responsabilité de ces grandes corporations-là amène justement à poser des actes qui sont à la limite et toujours dans une perspective de maximiser les profits. Donc, la maximisation des profits n'est pas toujours une bonne chose, il y a une limite à atteindre. Et ça, en l'occurrence, on en a une au niveau de la sécurité nationale, dans ce cas-ci américaine, qui a été un peu malmenée. L'autre nouvelle, c'est la Corée du Sud va commencer à déployer ou mettre en œuvre une intelligence artificielle nationale, souverain, essentiellement, pour réussir à garder, avoir le contrôle, maîtriser, ainsi de suite. Donc, on voit les effets à terme. On l'a vu aussi cette semaine avec les Chinois, mais j'en parlerai pas spécifiquement avec Kimi 3. Qui est sorti, qui semblerait quasi aussi puissant que Fable. Donc, on est dans un contexte comme ça où l'effet du blocage d'export control de Mythos amène les pays à agir. Donc, c'est peut-être pas pour le meilleur pour les Américains, mais d'un point de vue international, je pense que ça va diminuer la pression de tout le monde et tout le monde va regarder en conséquence sur ce type d'approche. Bref, privacy, nouvelle particulièrement apparent sous le fait que les pixels, essentiellement, les écrans maintenant peuvent regarder les personnes qui les regardent. C'est pas sans rappeler 1984, qui est le livre culte, si on veut, sur la surveillance, que la télévision nous regarde. Mais on arrive au moment où on va être capable de faire une télévision qui va être bidirectionnelle, dans laquelle on va regarder. On aura même plus besoin de caméra pour faire notre visio. Notre écran d'ordinateur va être une caméra en même temps que diffuser le contenu. Donc, on va pouvoir regarder face à face. Fait que ça va être intéressant de voir, mais en même temps, c'est très apparent parce que si on regarde comment les télévisions ou le marché des télévisions se développe à l'heure actuelle, il y a un peu de scrupule de la part des fabricants de nous pousser plein de cochonneries. Ben, il ne serait pas étonnant que ça nous arrive dans notre salon sans même qu'on le sache. Bref, section sur la loi. Bloc de nouvelles intéressantes sur le blocage essentiellement. Corbyn a sorti plusieurs articles sur des tentatives de blocage européen, notamment le fait que la Cour de justice européenne a dit que le géoblocage VPN, c'est neutre, donc on peut utiliser le VPN pour essentiellement contourner le géoblocage. Il n'y a pas d'acte illégal là-dedans. Pour les transporteurs seulement. Ça ne veut pas dire que la personne qui l'utilise fait un geste illégal demeure responsable de son geste illégal. Par ailleurs, l'usage du VPN pour accéder à du contenu légal n'est pas un problème, et encore moins pour les transporteurs qui ne sont que des tuyaux dans ce cas-ci. Donc, ce n'est pas eux qui sont mis en place. Fait que ça rappelle cet environnement. Fait que c'est très étrange. C'est très étrange. C'est très intéressant de le voir comme ça, parce qu'on a vu aussi au Brésil qu'il y avait eu l'attentat, que le jugement, ou en tout cas la règle qui avait été bloquée X, si VPN est utilisé, les citoyens étaient responsables. Donc, on a un peu de différence d'application comme ça. Il y a la Belgique qui essaie de bloquer Wawa City. Et se fait contourner rapidement. Et ça revient sur tout le fait du blocage. Puis notamment la France essaie beaucoup de faire du blocage. L'Espagne l'a fait aussi, blocage DNS, blocage IP. Force et fournisseurs de le faire. Dans ce cas-ci, c'est Google. Puis Google amène un papier très simple qui est très bien expliqué par Corbyn, dans lequel j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que ces blocages-là sont relativement inutiles ou n'arrivent pas aux objectifs. Donc, les ayants en droit courent après une situation qui est insoluble. Et dans le cas de Polymarket qui est bloqué en France par la Société des Jeux, ben, ça sent rappeler qu'au Québec, on avait essayé de faire la même chose avec les casinos en ligne parce que l'Auto-Québec voyait son marché se réduire. Donc, ça avait été abandonné justement parce que le ridicule de la situation qui avait été amenée à cette époque-là, parce que plusieurs personnes du domaine s'étaient insurgées par rapport à ça, il y avait tout ça très drôle. Et effectivement, c'est des mesures qui sont très faciles à contourner. Le take là-dessus est un peu au niveau technique, c'est peut-être pas la bonne stratégie à prendre. Puis notamment aussi ce que Google mentionne, puis très bien relaté dans l'article de Corbyn, qu'on bloque des adresses IP aussi, ça va avoir des conséquences collatérales très, très importantes, puisque les sites d'hébergement vont héberger plus qu'un site. Généralement, ils vont en avoir des centaines, si ce n'est pas des milliers, sur un même adresse IP. Donc à ce moment-là, on va bloquer violemment d'autres choses. que l'article relate très bien. Donc, on est dans un contexte où ces blocages-là et c'est cette déconnexion entre les décideurs politiques ou législatifs et les ayants droit et ce manque de compréhension-là nous amène dans des choses un peu plus farfelues parce que dans les faits, oui, effectivement, c'est un geste qui est, au niveau de la loi qui est illégal. Est-ce que c'est d'instrumentaliser le système de justice ou l'État pour faire valoir ses droits, c'est une chose. Est-ce qu'on a des questions philosophiques à avoir là-dessus? Effectivement, c'est très important de réfléchir à ça, de voir est-ce qu'on doit protéger à ce point-là. Et les mesures, mais les mesures à l'actuelle sont complètement inutiles et un peu risibles à quelques égards. Donc, c'est de regarder de façon différente. Donc, c'est très fascinant ce qu'il y en est de ce côté-là et comment tout ça est fait et comment on peut justifier de faire ce type de choses. Fait que, bref, c'est un bloc intéressant qui... J'ai hâte de voir comment il va évoluer avec le temps, puisque au Québec, on l'a abandonné. Il n'est pas dit qu'on ne reviendra pas sur cette réflexion-là, mais on a abandonné ce genre de blocage-là. Ce que la France fait, énormément, la Belgique le fait, et plusieurs pays francophones ou européens, c'est de bloquer par des DNS, par des blocages IP, sur ce type de stratégie-là. Donc, je pense qu'il va y avoir des réflexions. Bref, médias sociaux, trois nouvelles aussi de ce côté-là, qui devient... intéressant à plusieurs égards. La première, le fait que C34, qui est pour le blocage des médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans, a potentialité d'être inconstitutionnel, selon Michael Geist. Donc, intéressant. Je devrais aller enregistrer au mois d'août avec des avocats sur C34, C36. Justement, on va pouvoir approfondir davantage et aller plus loin parce que ma compréhension est quand même assez partielle de ces lois-là. Le blocage pour les adolescents en Europe est en pleine croissance. Donc, ce qui est fait au UK et en Australie va probablement être étendu à l'ensemble de l'Europe, ce qui en soi est une bonne chose. Par ailleurs, et c'est là où la dernière nouvelle de cette section-là, puis je trouve intéressant, c'est que la Californie va interdire le scroll infini, le doom scrolling, essentiellement. Et je pense que cette stratégie-là est beaucoup plus efficace ou sera beaucoup plus efficace que d'interdire aux adolescents d'accéder aux médias sociaux. C'est-à-dire que de mettre des mesures en place pour être sûr que les grands fournisseurs de médias sociaux, en l'occurrence, dans ce cas-ci, c'est TikTok, Instagram, par exemple, vont mettre des mesures pour être moins addictifs, est beaucoup plus, je pense, intéressant que d'essayer de bloquer les adolescents comme l'accès. Comme on l'a mentionné les semaines précédentes, l'Australie, ça ne semble pas super efficace, cette loi-là, même si l'objectif est louable. Je suis d'accord avec l'objectif. Le moyen est discutable. Dans ce cas-ci, je trouve que la Californie aborde une façon peut-être que plus de chances de réussir, de retirer l'effet de dépendance à cette technologie-là ou à ces médias sociaux-là, d'en réduire, donc d'amener les adolescents à être capables de mieux gérer leur temps et peut-être d'un enseignement. Mais c'est pas sans rappeler que la Chine bloque de façon assez importante dans ce cas-ci avec des pénalités qui sont pénales chez les propriétaires des entreprises, donc des conséquences très, très importantes. Donc c'est de voir comment on peut mettre ça en œuvre et d'arriver au résultat, c'est-à-dire protéger les enfants, les adolescents, et tout en ayant des mesures qui sont efficaces, parce que précédemment, on parlait des VPN puisque c'était des blocages inefficaces. Bon, on arrive un peu dans cette perspective-là. Et c'est pas sans parler de toutes les lois américaines auxquelles j'ai déjà abordé un certain nombre d'entre elles qui sont quand même très à risque et qui ne viennent pas résoudre le vrai problème dans lequel on fait face et qui est juste à côté. Bref, fin des sous-sections de ce grand bloc-là. Les sénateurs américains sont inquiets sur la C-22 au Canada. Ils trouvent que cette loi-là est trop invasive. C'est un peu drôle de voir que les Américains s'insurgent contre des lois invasives, eux-mêmes ayant des lois excessivement invasives sur la protection des informations. Ça, de toute façon, C-22 a un certain nombre de problèmes d'un point de vue canadien. C'est pas une super loi, là, à bien des égards. Mais elle est aussi agressive que la loi du UK qui avait eu lieu quelques mois de ça, en termes de conservation d'informations. Donc, c'est de voir comment on peut manœuvrer là-dedans, comment le grand paysage géopolitique et comment il se situe à l'heure actuelle peut avoir un effet sur cette loi-là. C'est sûr qu'avec la relation un peu houleuse qu'on a avec les Américains présentement, on n'aura peut-être pas tant d'écoute que ça à leur doléance, ou on pourrait se servir de ça comme étant une monnaie d'échange pour avoir la paix sur un certain nombre de choses, mais bref, c'est à voir. Mais bon, ça l'amène d'énormes conversations, c'est intéressant de voir. Et il est un peu cocasse de mentionner que le Claudac a été mentionné comme étant une manœuvre ou une façon d'encadrer cet usage-là. Fait que, bref, c'est toujours très drôle de voir les Américains déchirer leur chemise quand eux-mêmes ils espionnent tout le monde et tout ça. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là. En Europe, le DMA, le gouvernement, le Parlement européen ou la Cour de justice européenne, je ne sais pas si c'est laquelle qui a forcé, j'ai mal mémorisé l'article. Mais bref, ça dit essentiellement que l'Europe a forcé Google à ouvrir ses données de recherche et de l'intelligence artificielle sur Android. C'est intéressant parce que là, on voit du pushback de Google qui dit qu'on va mettre en péril des informations personnelles, privées, confidentielles, puis qui ont probablement raison quand ils mentionnent la mise en danger de ces dites informations-là. Par ailleurs, c'est comment on ouvre. Puis je ne suis pas nécessairement d'accord avec DMA dans toute sa globalité, comme DSA non plus d'ailleurs. Je trouve un peu invasive et des lois qui sont peut-être mal adaptées pour arriver à l'objectif qui est recherché en l'occurrence. Mais bref, c'est quand même un pas en avant à certains égards. Et de défaire ces monopoles-là, américains en l'occurrence, et peut-être une chose intéressante est de voir comment ça se fait sans arriver avec une forme d'équilibre que la loi n'offre pas jusqu'à présent. Peut-être que ces contestations-là vont amener une forme d'équilibre ou une ouverture différente ou une vraie ouverture du marché qui est souhaitée par l'objectif de la loi, mais qu'en quel cas, on n'a peut-être pas arrivé à la bonne démarche. Bref, San Francisco, le procureur de San Francisco ordonne plus que force. Apple et Google ont retiré les applications qui viennent dénuder les personnes. C'est un débat difficile de savoir que sur ces App Store-là, ces informations-là ne sont pas été retirées par les propriétaires de ces plateformes-là. Et en même temps, ça soulève aussi le point où, quand on commence à avoir des marchés alternatifs, ce que les lois européennes, c'est ça aussi le lien avec les lois européennes, obligent les marchés alternatifs de plus en plus difficile de contrôler la présence de ces applications-là, puisque les marchés parallèles existent, et il devient possible de charger sur les appareils des applications qui sont dites illégales, mais comme ils ne sont pas passés par les canaux officiels, sont beaucoup plus difficiles à attraper. Donc, on est comme un effet collatéral qui faut tenir en compte dans l'absolu. Le FAA réautorise Boeing à signer un airworthiness pour ses avions, les 737, notamment. Je crois que les 787 aussi. C'est intéressant de voir ça que le FAA délègue au constructeur le fait de valider la pertinence ou le airworthiness des avions. Avec les différents traités que Boeing a connus dans les dernières années, c'est un peu inquiétant que ça se fasse comme ça. Le modèle est inquiétant de toute façon avant même que les incidents Boeing se passent, puisque on est jugé parti dans l'occurrence. C'est peut-être pas une bonne chose, on ne permet pas une bonne évaluation. C'est plus difficile d'avoir confiance, surtout quand ces compagnies-là sont comprimées pour faire le maximum d'argent possible, en tout cas d'extraire le maximum d'argent possible dans un marché qui est très compétitif, où c'est très coûteux de faire des avions ou de développer des nouveaux avions, et que les changements ou les raccourcis qui sont pris, notamment dans le 737, qui ont amené aux problèmes qu'on a connus dans les dernières années, puisse être signé par le responsable de fait. Bref, je ne sais pas si c'est l'article ne le mentionne pas, s'il y a des contre-pouvoirs, des contre-vérifications qui permettent justement de s'assurer de conserver une forme de confiance face à ce que Boeing ne répète pas les erreurs du passé. Bref, l'Allemagne veut restreindre le Freedom Information Act, l'accès aux informations. C'est un peu préoccupant que ça se fasse, surtout dans un pays européen qui a une limitation. Les limitations sont à valider sur la portée. L'article n'est pas, en tout cas, pas clair. Je connais mal, d'ailleurs, les lois allemandes, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais juste le titre lui-même est inquiétant et qu'il y a beaucoup d'organismes publics, ONG, qui sont inquiètes face à ça parce que c'est une façon utile pour le peuple de contrebalancer le pouvoir en place et s'assurer qu'il y a un bon usage des fonds publics, que les politiques avancent et tout ça. Donc, bref, c'est un peu préoccupant que ça se fasse de cette façon-là. Bref, dans la nouvelle de cette section-là, le nouveau premier ministre anglais va abandonner le Digital ID, qui est essentiellement une mesure pour limiter l'immigration illégale. Ce qui est essentiellement dit par stratégiquement, c'est que l'Angleterre va se concentrer sur des vrais problèmes actuels et que cet élément-là n'est pas un réel problème du coup, en apparence. Là, ça peut être débattu, mais l'article mentionne comme ça que c'est pas un vrai problème ou un problème suffisant. Il y a beaucoup d'autres problèmes à régler avant d'investir dans ce genre de choses. Bref, section rouge. Le Secure Boot de Microsoft est brisé depuis au moins une dizaine d'années. C'est intéressant de voir que cette technologie-là qui avait été développée justement pour s'assurer que la chaîne de démarrage soit protégée ne l'est pas. Ça leur met en perspective beaucoup de choses et donc les a priori qu'on a sur l'évaluation de sécurité et à quel point c'est complexe de développer ce genre de système-là, surtout que Microsoft s'est porté comme étant celui qui était l'autorité ultime dans cette séquence-là, donc les effets que ça a eu. Donc, la complexité, l'ennemi de la sécurité, ça en a un cas. Je ne sais pas si les changements devraient être plus structurels et plus importants, mais bref, on est dans un contexte où ça a été ébranlé sévèrement. Cursor a un drôle de vulnérabilité qui a été refusé d'être corrigé, mais essentiellement sur Windows en plaçant un git.exe dans les répertoires du dépôt, fait que Cursor va l'exécuter d'avance. Donc, dès lors, on est capable de mettre un git.exe qui est toxique, qui va prendre le contrôle de la machine. Donc, bref, on est dans un drôle de concept et en même temps, c'est une démonstration que tout ce vibe coding-là amène des conséquences. Donc, il faut être très, très vigilant sur ce qui se passe. Autre nouvelle, puis celle-là, je l'amène parce qu'elle est intéressante de ramener dans la chose pour finir par abandonner d'en parler. Le fait que la Russie continue à attaquer les infrastructures de l'Occident sur la base que celles-ci sont mal protégées. Fait qu'on est dans un contexte où on a construit notre infrastructure numérique sur des sables mouvants, disons, et on s'étonne que c'est attaqué. Donc, il faudrait agir soit par de la législation, soit par peu importe le moyen, pour assurer que toute la sécurité des infrastructures, au moins qui sont face à Internet, soit suffisamment bien protégée. Donc, ça l'amène une capacité à des ennemis. C'est pas la première fois que j'en fais mention sur différentes formes, mais bref, j'en reparle encore parce que c'est clairement encore dans l'actualité. Et ce que je vois autour de moi, on est encore dans cet univers-là d'un peu de laisser aller sur la sécurité de tout ce qui est fait face à Internet. Faille intéressante dans le protocole 6 GHz Wi-Fi, sur lequel on met une négociation dans ce protocole-là pour l'usage dans des infrastructures publiques, notamment dans ça, parce que c'est des fréquences qui sont quand même partagées. Et essentiellement, ce qui est amusant de cette nouvelle-là, c'est que le protocole de négociation et fait confiance à des sources de données qui sont facilement manipulables, donc qui ne sont pas authentifiées. En 2026, on est encore dans des situations comme ça. Je trouve ça fascinant qu'on les principes de base qu'on essaie de répéter depuis des années ne sont pas encore aussi étendus. Mais bref, on est un peu dans cette séquence-là. Et dans le même esprit, tous les faits que les autos modernes ont tous une capacité de mise à jour par les airs, donc par des cartes cellulaires qui sont incluses dans toutes les autos maintenant, ouvre la voie à des problèmes de sécurité. C'est pas étonnant, c'est fascinant. On est encore dans un univers où on ouvre ça facilement à grand nombre, sans mesure de sécurité adéquate, sans PKI robuste, sans structure qui permet ça. Donc la facilité amène, mais dans ce cas-ci, j'ai une pensée que c'est plus que la facilité, le fait que ces systèmes-là permettent de monter la télémétrie. Et j'ai plus l'impression que c'est la télémétrie qui est importante pour ces fabricants-là. Non pas des autos dans ce cas-ci, mais c'est dans d'autres secteurs aussi que les patchs. Fait que je pense qu'on cache sur le fait d'avoir des patchs sur cet élément-là quand je pense qu'on pourrait le faire autrement. Et je vois pas pourquoi je devrais faire corriger mon auto par les airs quand que je pourrais aller chez mon concessionnaire ou comme quand on fait remplacer une pièce qui a eu un rappel, par exemple. Que ça soit mis à jour durant l'entretien régulier, que j'ai une clé USB que je peux faire moi-même, la mise à jour, mais bref, toutes ces stratégies-là, je trouve ça un petit peu particulier, puis on s'étonne encore de ce genre de choses-là. Et dans la même lignée, Windows 10 qui refuse de mourir, mais c'est pas sans rappeler que Windows XP existe encore dans certaines infrastructures, Windows 2000 existe encore dans certaines infrastructures. Donc, on est encore dans un contexte où la plupart de ces machines-là vont prendre des années avant de disparaître, c'est sur le temps long. Même si Microsoft veut pousser tout le monde à aller rapidement vers d'autres choses, on est dans une des réflexions de temps long. Puis ça fait longtemps qu'on est comme ça, puis je comprends pas pourquoi en TI, on oublie. En OT, c'est comme ça. Je pense que la culture OT n'a pas encore bien versé du côté IT, mais si on est sur du temps long, des temps de migration qui sont c'est ça, des temps longs. Fait qu'essentiellement, il n'y a pas d'étonnement, mais en même temps, il va falloir qu'on fasse avec. Là, Microsoft a déjà étendu d'un an de plus son support payant. Et il va falloir peut-être avoir une meilleure réflexion, peut-être des lois encore là, peut-être que les fabricants sont pas assez bien encadrés et finissent par pousser des choses qui ne devraient pas, en tout cas en l'occurrence. Dans la nouvelle section aussi, les moniteurs LG poussent des correctifs à travers Windows Update, des drivers à travers Windows Update. Je trouve ça intéressant de l'usage que le moniteur, comme il apparaît dans la liste de périphériques de Windows, le Windows Update permet d'aller chercher des pilotes de périphériques conséquent et donc de venir descendre sur notre machine des choses qu'on ne veut peut-être pas. Dell l'a fait aussi. Donc, c'est intéressant de voir qu'on vient de bypasser toute l'autorisation par le fait de brancher un matériel qui va aller automatiquement et la facilité d'utilisation, donc d'ouvrir la porte à ce type de choses-là. On a vu ça dans d'autres contextes. Là, je parle des moniteurs, on l'a vu dans des choses de USB aussi il n'y a pas si longtemps. Mais bref, on est dans un contexte où c'est des vecteurs qui potentiellement peuvent venir des vecteurs d'attaque peuvent être toxiques et installer des logiciels qui sont pas voulus sur les machines, qui sont généralement vulnérables parce que ces fabricants-là de moniteurs, dans ce cas-ci, ne sont pas nécessairement bien éduqués aux meilleures pratiques de cybersécurité. Bon, bref, section bleue, deux petites nouvelles. La première, c'est trois nouvelles. CubeOS a été analysé par des chercheurs. Je trouve ça intéressant qu'on ramène ça dans l'espace public, que la sécurité de CubeOS soit analysée de façon académique. Il n'y a pas de grande chose plus qu'à dire que c'est assez pertinent qu'on fasse ce genre d'études-là pour qu'on puisse commencer à brasser et s'assurer que ce genre de OSA qui est très bien fait par ailleurs soit maintenu et continue à assurer la sécurité pour ceux qui l'utilisent. Microsoft va forcer le passkey comme authentification par défaut en septembre, ce qui est une bonne nouvelle. Ça va se débarrasser du SMS puis par la voix, dans l'appel téléphonique essentiellement comme mesure d'authentification. Deuxième facteur, donc le passkey est une bonne chose, il faut bouger les organisations. Déjà, je vois beaucoup de résistance au niveau des organisations à aller sur du MFA plus fort, notamment avec la question Authenticator. Comme je vois énormément de difficultés des organisations, on va passer au passkey également. Donc, je trouve ça particulier. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup, d'ailleurs, le passkey, comme étant un moyen d'authentification qui est robuste. J'en ai plusieurs. Il y a des a priori à réfléchir avec ça, mais quand même qui sont très importants. Bref, dernière nouvelle de cette section-là, c'est Kevin Beaumont qui fait une mention honorable au CISA d'avoir admis l'absence de règles de gestion d'incidents dans lequel l'incident ils ont connu récemment, donc ils vont le faire eux-mêmes, au-delà du fait de l'avoir professé pour les autres, mais maintenant ils vont le faire pour eux-mêmes, ce qui est une très bonne chose. Dernière section d'hiver, deux nouvelles un peu étranges, si on veut. La première, c'est Trumpedia va vendre un accès privilégié à des informations qui peuvent avoir des impacts sur le marché. C'est très particulier de voir cette revente-là d'informations d'initiés qu'on va voir circuler, notamment déjà que c'est déjà largement connu que Trump fait des délits d'initiés ou sa famille fait des délits d'initiés. Maintenant, ils vont monétiser les délits d'initiés à travers ces plateformes-là, fait que c'est un peu particulier. Il y a personne qui a répondu si Trump allait donner des informations privilégiées là-dessus par des stratégies d'API, mais bref, c'est une façon de monétiser qui est un peu particulière et qui justement défait un peu l'arrangement du marché. En tout cas, tout ce qu'on a comme a priori, comme dans les pays démocratiques et dans lesquels la corruption, on essaie de s'en débarrasser le plus possible. Bref, dans la nouvelle, Microsoft restaure un profil d'une personne qui son profil avait été hacké et que son compte avait été effacé. C'est pas la nouvelle ça en ça, c'est pas ça qui est super dans la nouvelle, mais c'est un rappel que ces plateformes-là n'ont pas nécessairement une fiabilité très grande sur la pérennité des informations parce que cette personne-là, son compte de OneDrive et Xbox, il y avait notamment les photos de ses enfants dessus ou de son enfant dessus et de savoir qu'on repose tout sur ça, c'est un peu une réflexion à avoir qu'on ne peut pas se baser sur ces services-là pour comme unique source de stockage des photos, des informations qu'on trouve très, très précieuses, notamment les photos de nos enfants, par exemple. Fait que, bref, c'est un rappel, juste comme ça, juste puis de rappeler votre entourage que c'est important d'avoir d'autres stratégies de sauvegarde, que OneDrive n'est pas la seule stratégie de sauvegarde et que le compte OneDrive peut être effacé à tout moment si le compte est piraté, si Microsoft en juge selon ses politiques, peu importe. Fait que, bref, ça termine une nouvelle cette semaine. J'ai essayé d'être succinct, ce que j'ai clairement pas réussi. Par ça, bref, cette semaine, il va y avoir le 800. Normalement, il y aurait le 800e qui va être diffusé cette semaine, qui aurait dû être diffusé. Il ne le sera pas parce que l'enregistrement du 800e est prévu au mois d'août, parce que j'ai eu quelques difficultés à rassembler tout ce monde-là, puisque je me suis pris un peu tard pour mettre en place ce que je voulais. Embarqué comme sujet, mais bref, le 800e sera sauté cette semaine. Sinon, ben, il va y avoir deux autres épisodes standards, puis le site normal va suivre, bref, par rapport à ce genre de choses-là. Merci de votre écoute, merci de votre rendu jusqu'à la fin. Bref, je vous souhaite une excellente semaine.